Bonjour à tous et à toutes. À la dernière étude, nous avons vu l'hospitalité de la Tsunamite ainsi que sa fidélité. Et ce soir, nous allons voir la conséquence positive de ce comportement qui est la bénédiction. Parce que Dieu aime ceux qui sont hospitaliers et fidèles. Voilà. Et il les bénit par conséquent. Alors, le passage de ce soir concerne 2 Rois, chapitre 4, versets 11 à 37.
Un jour qu'Élisée repassait à Sunem, il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et y passa la nuit. Puis il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Tsunamite. » Géasi l'appela, et elle vint se présenter devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « Non merci, je vis heureuse au milieu de mon peuple. » Élisée demanda à son serviteur, « Que pourrions-nous faire pour elle ?» Géasi répondit, « Hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Géasi obéit, et elle vint se présenter sur le pas de la porte. Élisée lui dit, « L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Elle s'écria alors, « Que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs, moi qui suis sa servante. » Cependant, cette femme devint enceinte, et l'année suivante à la même époque, elle donna naissance à un fils, exactement comme Élisée le lui avait prédit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé rejoindre son père auprès des moissonneurs, il cria soudain à son père, « Oh ma tête, que j'ai mal à la tête !» Le père ordonna à son serviteur, « Emporte-le vite chez sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, qui le prit sur ses genoux. Il y resta jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta dans la chambre du prophète, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, referma la porte sur lui et sortit. Puis elle appela son mari et lui dit, « Donne-moi, je te prie, l'un des jeunes serviteurs et une ânesse. Je vais vite aller chez l'homme de Dieu et je reviens aussitôt. » « Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui ? » lui demanda-t-il. « Ce n'est ni la nouvelle lune, ni un jour de sabbat. » Elle lui répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, « Conduis-moi rapidement. Ne m'arrête pas en cours de route sans que je te l'ordonne. » Elle voyagea ainsi et parvint jusqu'au mont Carmel où habitait l'homme de Dieu. Quand celui-ci l'aperçut de loin, il dit à son serviteur Géasi, « Regarde, c'est notre Tsunamite. Cours vite à sa rencontre et demande-lui, « Tout va-t-il bien pour toi ? Ton mari est-il en bonne santé ? L'enfant va-t-il bien ?» Elle répondit, « Tout va bien. » Elle poursuivit jusqu'à l'homme de Dieu sur la montagne. Elle se jeta à ses pieds. Géasi s'approcha pour l'écarter. Mais Élisée lui dit, « Laisse-la faire. Elle est profondément affligée. Mais l'Éternel ne me l'a pas fait savoir et il ne m'en a pas révélé la cause. » Alors la femme s'écria, « Est-ce que j'ai demandé un fils à mon Seigneur ? Ne t'avais-je pas dit ? Ne me donne pas de faux espoirs ?» Élisée ordonna à Géasi, « Mets ta ceinture, prends mon bâton en main et va. Si tu rencontres quelqu'un en chemin, ne perds pas de temps à le saluer. Et si quelqu'un te salue, ne t'arrête pas pour lui répondre. Quand tu arriveras dans la maison de cette femme, tu poseras mon bâton sur le visage du garçon. » La mère de l'enfant s'écria, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne partirai pas sans toi. » Alors Élisée se leva et se mit en route avec elle. Géasi les avait devancés, et il avait posé le bâton sur le visage du petit garçon, mais rien ne s'était passé. Pas un son, pas une réaction. Il revint donc sur ses pas, à la rencontre d'Élisée, et lui annonça que l'enfant n'était pas revenu à lui. Quand Élisée arriva à la maison, le petit garçon était mort, étendu sur le lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se plaça sur l'enfant. Il appliqua sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Comme il restait ainsi étendu sur lui, le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Le prophète se releva, marcha de long en large dans la chambre, puis s'étendit de nouveau sur l'enfant. Soudain, le petit garçon éternua 7 fois et rouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit « Va chercher cette Tsunamite ». Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui lui dit « Voici ton fils, reprends-le ». Elle s'avança, se jeta à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre, puis elle prit son fils dans ses bras et sortit de la pièce.
Voilà. Donc dans ce passage, nous avons un des 14 miracles effectués par Élisée. Mais dans ce passage, il y a 3 personnages principaux qui sont la Tsunamite d'une part, Dieu, notre Seigneur d'autre part, et Élisée. Concernant la Tsunamite, nous pouvons découvrir 3 épisodes clés dans ce passage. Premièrement, Dieu a béni cette femme hospitalière et fidèle en lui donnant un fils. C'est les versets 8 à 17. Deuxièmement, Dieu l'a mise à l'épreuve en permettant que son fils soit repris. C'est les versets 18 à 21. Et troisièmement, parce qu'elle s'est accrochée fermement à la promesse divine, Dieu a rendu la vie à son fils. C'est les versets 22 à 37. Concernant Dieu, nous voyons que parfois, il permet que ses fidèles disciples endurent des épreuves et des afflictions inexplicables, comme pour Job, par exemple, mais ensuite, ils expérimentent son amour, sa grâce et sa compassion lorsqu'ils s'attachent fermement à lui par la foi. Concernant Élisée, nous constatons que l'Esprit du Seigneur était sur lui, ce qui lui permettait de parler avec une grande autorité spirituelle en tant que représentant de Dieu et de proclamer fidèlement la parole de l'Éternel. D'autre part, en tant que prophète doté d'une stature et de dons hors du commun, Dieu a confirmé son ministère par des signes et de puissants miracles, dont celui de ressusciter l'enfant de la Tsunamite. Voilà les sujets principaux développés dans ce passage, et à travers eux, je vous parlerai tout particulièrement de la bénédiction, mais aussi du contentement. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à bénir, à répandre les grâces de Dieu autour de nous et parmi ceux que nous côtoyons, en étant la lumière du monde, le sel de la terre, et la bonne odeur de Christ. Nous devons apporter la paix, la joie, l'amour, la douceur, la bonté, la fidélité, la patience, la bienveillance et la tempérance. C'est là l'odeur du fruit de l'Esprit que nous sommes appelés à répandre. C'est Galates chapitre 5, verset 22. Et c'est là un parfum gratuit. La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 9, « ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Nous sommes en effet appelés à désirer le bien pour les autres et nous pouvons déjà manifester cela en pensée, puis en parole, ainsi qu'en acte. Nous ne devrions pas avoir de retenue pour bénir ceux qui nous entourent, car Dieu nous demande même de bénir ceux qui nous persécutent ainsi que ceux qui nous maudissent. C'est dans Romains chapitre 12, verset 14 et Matthieu chapitre 5, verset 44. Ceci rejoint ce que le Seigneur Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 10, verset 40 à 42. « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Celui qui vous reçoit me reçoit, a donc dit Jésus. Recevoir Jésus, c'est être béni en retour par lui, qui est la source de toute bénédiction. Et tout comme on est béni et récompensé lorsqu'on reçoit Jésus, il y a aussi des récompenses pour ceux qui reçoivent des prophètes, des serviteurs de Dieu, des disciples du Seigneur, des justes, comme il vient d'être dit. Mais qui sont-ils ceux qui reçoivent ainsi? Ce sont tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est vous et c'est moi également. Maintenant, d'où viennent les récompenses pour ceux qui nous reçoivent? Elles viennent de nous. En effet, s'il est vrai qu'il y a des récompenses à venir, que le Seigneur donnera suivant ce que nous aurons été et ce que nous aurons accompli, étant dans notre corps, comme cela est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, il est marqué « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Donc, j'ai dit, s'il y a des récompenses à venir que le Seigneur donnera, il est également vrai, pour ce qui nous concerne durant notre vie ici-bas, que nous sommes appelés à distribuer des récompenses à ceux qui nous reçoivent. D'une part, nous sommes appelés à bénir, et ceci en fonction de la mesure de foi que nous avons reçue et des dons que Dieu nous a donnés. C'est ainsi que lorsque Jésus-Christ a envoyé ses disciples pour la moisson, il leur a dit « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » C'est Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8. D'autre part, nous devons répandre les bénédictions que Dieu nous a données, comme Jésus le dit en Matthieu chapitre 10, verset 13, « Si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. » Oui, frères et sœurs, nous devons donner et partager notre paix, notre joie, notre amour et bénir ceux qui nous reçoivent. Nous sommes appelés à être une source de bénédiction partout où nous allons. L'apôtre Paul, en écrivant aux Romains, leur dit « Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. » Romains chapitre 15, verset 29. Il avait des bénédictions à donner à l'Église de Rome. Posons-nous à présent la question suivante. De quelle manière puis-je être en bénédiction chez moi, dans l'Église et parmi ceux que je rencontre? Je le peux en désirant le meilleur et en priant pour ceux que je côtoie. Posons également la question suivante au Seigneur. Seigneur, quelle sorte de bénédiction désires-tu que je donne à cette personne, à cette maison, à mon église, à ceux avec qui je me trouve en ce moment? La veuve de Sarepta avait donné à Élie un petit gâteau de farine et de l'huile. Et en retour, elle a reçu la bénédiction que l'Éternel avait prononcée par Élie, la multiplication de l'huile et de la farine durant toute la période de sécheresse. C'était une récompense de prophète. La riche Tsunamite avait donné à Élisée son hospitalité et elle lui avait même construit une chambre haute toute meublée. De quelle bénédiction le prophète Élisée pouvait-il bien la récompenser? Celui qui reçoit un prophète recevra une récompense de prophète, avait dit le Seigneur. De quoi cette femme pouvait-elle avoir besoin? Élisée lui a posé la question suivante par l'intermédiaire de son serviteur Géasi. « Voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? Est-il marqué en 2 Rois, chapitre 4, verset 13a ? En d'autres termes, veux-tu plus d'honneur, plus de gloire devant les grands de ce monde ? Fais-moi confiance, j'ai des relations avec le roi d'Israël. » La Tsunamite répond « Non, j'habite au milieu de mon peuple. » C'est 2 Rois, chapitre 4, verset 13b. « J'habite au milieu de mon peuple, ce qui veut dire « Je suis heureuse comme je suis. » Elle était croyante et elle était satisfaite avec ce qu'elle avait. Frères et sœurs, le contentement, la satisfaction, on ne les trouve pas souvent chez l'être humain. Quand on écoute et voit tout ce qui se passe autour de nous, il n'y a que murmures, mécontentements, grèves, révoltes, etc. C'est le péché qui a conduit l'homme à cette insatisfaction continuelle et qui le pousse à vouloir sans cesse autre chose et toujours plus. À force de désirer ce qu'il n'a pas, immanquablement, l'homme devient grincheux et mécontent. C'est le murmure perpétuel qui prédomine. L'homme se plaindra de son sort jusqu'à ce qu'il soit enfin réconcilié avec notre Seigneur. Car il n'y a qu'en Christ que l'on puisse trouver une pleine satisfaction. C'est lorsque le Seigneur remplit toute notre vie, selon qu'il est écrit, « Vous avez tout pleinement en Christ », Colossiens, chapitre 2, verset 10. Oui, nous avons tout en lui, à commencer par la paix avec Dieu, mais aussi la paix avec soi-même, avec ceux qui nous entourent, et nous avons également la satisfaction d'appartenir au Seigneur. C'est ce que Jésus disait à la femme samaritaine. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est Jean, chapitre 4, verset 14. Cela, c'est la vie abondante que nous recevons en Christ. Et ce n'est pas un os à ronger. C'est une réalité. Et ce contentement en Christ se développe au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur. Car il nous apprend à l'expérimenter à travers toutes les situations de la vie. L'apôtre Paul le mentionne lorsqu'il écrit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Philippiens, chapitre 4, verset 11. Oui, avec Christ, tout cela est possible. « Je puis tout par celui qui me fortifie », ajoute Paul au verset 13 de ce même chapitre. Et il aurait pu ajouter « Je peux être satisfait et heureux quelles que soient les situations, car mon contentement dépend de la présence de Christ en moi. » C'est pourquoi ne limitons pas Dieu en disant « Si seulement je pouvais avoir telle ou telle et telle chose, je serais heureux. Oui, si seulement je pouvais être comme cette personne, ce serait le ciel sur la terre. Ou si seulement. » Oui, frères et sœurs, ne limitons pas Dieu. Et pour cela, réalisons que la plénitude de la vie de Christ ne dépend pas des biens d'ici-bas ou des circonstances, mais de sa présence en nous. Avoir Christ, cela suffit, car nous pouvons être pleinement satisfaits dans le Seigneur. C'est cela, la vie abondante en Christ, c'est une satisfaction invariable, c'est être bien heureux. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean, chapitre 10, verset 10. Frères et sœurs, il nous faut découvrir Jésus-Christ et alors nous découvrirons le contentement. La Tsunamite, bien que vivant sous l'ancienne alliance, avait appris à être contente de son état. C'est alors qu'Élisée dit à Géasi « Que faire pour elle ?» 2 Rois, chapitre 4, verset 14, petit a. Et Géasi lui répondit, Elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et c'est à ce moment-là que le prophète a reçu la foi pour cette femme, ainsi qu'une parole prophétique. Il la fit venir et lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Frères et sœurs, celui qui recevra un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Sûrement que cela avait été le désir du cœur de cette femme d'avoir un enfant. Mais au cours des années, elle avait sans doute accepté le fait de rester stérile, et cela ne devait plus tellement la préoccuper. Aussi, les paroles d'Élisée ont fait ressurgir en elle cet ancien et profond désir du cœur. Et tout de suite, elle lui dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Et l'on pourrait ajouter, par de telles paroles ou par de fausses espérances. Ne trompe pas ta servante par de telles paroles ou par de fausses espérances. Mais Dieu sait toutes choses. Il connaît nos pensées et nos cœurs, car rien ne lui échappe. Sa parole ne dit-elle pas, « Fais de l'Éternel tes désirs, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Psaume, chapitre 37, verset 4. La Tsunamite avait mis les désirs de son cœur de côté, dans l'oubli, pour se préoccuper uniquement de plaire à son Dieu, en s'occupant des besoins d'autrui avec ce que Dieu lui avait confié. Elle ne voulait pas faire de marchandage avec Dieu en disant, « Seigneur, si j'exerce l'hospitalité, si je reçois chez moi des serviteurs de Dieu, que vas-tu me donner en échange ?» Non, elle ne voulait pas marchander. Elle était heureuse de servir son Dieu en se donnant et en distribuant. N'est-il pas écrit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » Actes, chapitre 20, verset 35. En cela, elle était déjà récompensée. Mais notre Dieu, qui est infiniment grand, va au-delà de tout ce que nous pouvons demander, penser ou espérer. Et n'oublions pas que l'immensité de la grâce de Dieu en faveur de ceux qui l'aiment et le servent n'est pas limitée uniquement à ce que nous pouvons recevoir ici-bas. Car la grâce de Dieu se manifestera aussi dans l'au-delà, dans la gloire à venir, lorsque nous serons semblables à lui. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Aussi, ayons une vision beaucoup plus grande et plus lointaine concernant l'espérance chrétienne. Ayons la vision de la gloire à venir qui sera révélée pour nous, selon qu'il est écrit dans Romains, chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Quelle récompense et quelle bénédiction! C'est d'ailleurs ce qui nous maintient, nous motive et nous aide à persévérer, même au travers des afflictions. Ce qui a aidé le Seigneur Jésus à souffrir la croix et à mépriser l'ignominie, c'était, nous dit la Bible, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée dans les cieux, couronnée de gloire et d'honneur, et parce qu'il rachèterait par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est Hébreux, chapitre 12, verset 2, et Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Sachant aussi que même si nous sommes pèlerins et voyageurs sur cette terre, le Seigneur ne nous oublie pas. Il pourvoit à nos besoins terrestres selon sa richesse et même au-delà, afin que nous soyons dans l'abondance pour pouvoir effectuer de bonnes œuvres, selon qu'il est écrit dans le psaume 112, verset 9, « L'Éternel fait des largesses, il donne aux indigents, et sa justice subsiste à jamais. » Mais ce qui est surtout extraordinaire, c'est que le Seigneur remplit notre cœur de contentement, quelles que soient les circonstances. Ce que la Tsunamite n'espérait plus, par la grâce de Dieu, une année plus tard, elle l'obtenait. Elle embrassait un fils. Ainsi, ne nous préoccupons pas de ce que nous n'avons pas, mais préoccupons-nous plutôt de plaire au Seigneur. Jésus a dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses qui sont la préoccupation première des gens du monde vous seront données par-dessus. » Matthieu, chapitre 6, verset 33. Dans notre récit, il est dit que l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il se sentit très mal. On le ramena alors vers sa mère à midi et il mourut dans ses bras. C'était là le cadeau de Dieu, c'était une récompense de prophète qu'elle venait de perdre. Qu'allait-elle faire? Dans l'histoire biblique de Job, au cours de circonstances encore plus tragiques, il a perdu ses 10 enfants ainsi que tous ses biens. Job a dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté ». Que le nom de l'Éternel soit béni. Job, chapitre 1, verset 21. La femme Sunamite, elle, sans perdre son calme et sa confiance en Dieu, a pris l'enfant, l'a monté dans la chambre haute et l'a couché sur le lit de l'homme de Dieu. Elle a fermé la porte sur lui et est sortie. C'était dans cette chambre haute que le prophète avait reçu la foi pour cette naissance miraculeuse. Et elle y a ramené l'enfant. Et elle y a ramené l'enfant, comme pour dire, « Il vient de toi, Seigneur, il est à toi. » Ensuite, la femme Sunamite a demandé à son mari un serviteur et une ânesse afin de se rendre en hâte vers l'homme de Dieu, sans lui dire la raison. « Mais pourquoi ?» dit son mari. Et sa seule réponse fut, « Tout va bien. » Certes, elle avait une grande affliction dans son cœur, mais elle n'était pas dans le désespoir. En vous relatant cela, je pense aux paroles de l'apôtre Paul qui déclare « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 et 9. Et il dit encore, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Romains, chapitre 8, verset 37. La Sunamite avait foi en Dieu malgré sa détresse. À son mari, comme à Géasi, le serviteur du prophète qui allait à sa rencontre, elle dira, « Tout va bien. » Si quelqu'un n'a pas la foi, cela ne sert à rien de lui exposer votre détresse. Il ne pourra pas vous aider, mais il vous écrasera encore plus par son incrédulité. La Bible dit « Faites connaître vos besoins à Dieu » Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ainsi, ce sera uniquement devant Élisée qu'elle répandra son âme, son affliction. À Élisée, qui est une figure du Seigneur Jésus, celui qui apporte le salut et la grâce. Et c'est là que l'on voit la détermination de la foi de cette femme. Lorsqu'elle dit à Élisée, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Ce qui veut dire, en d'autres termes, « Viens faire quelque chose pour mon fils, viens à mon secours. » C'est par ta foi que j'ai expérimenté une naissance miraculeuse, alors pourquoi pas une résurrection. Cette même détermination, nous l'avions vue aussi en Élisée qui ne voulait pas quitter Élie jusqu'au moment de son enlèvement, car il voulait la double portion de l'esprit d'Élie. Jacob avait aussi cette détermination alors qu'il combattait avec l'ange qui lui disait « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob de lui répondre « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Genèse, chapitre 32, versets 25 et 26. Frères et sœurs, la foi est une ferme assurance, et celui qui la possède est déterminé, inébranlable en Dieu et en sa parole, et il va jusqu'au bout de ce qu'il doit faire. C'est la foi en Dieu qui a permis à la Tsunamite d'être stable dans ses réactions, ses sentiments, ses émotions, même en face de la mort de son fils, et de pouvoir dire « tout va bien ». Dans le Nouveau Testament, en Hébreux, chapitre 11, verset 35, il est dit que c'est par la foi que des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Dans cette expression, il est sûrement fait allusion, entre autres, à cette femme tsunamite, qui était une femme confiante en Dieu et qui avait appris à surmonter bien des situations. C'était une femme qui aimait partager et donner à d'autres ce qu'elle avait reçu. Mais à propos de la foi, il ne faut pas que nous oublions qu'il a fallu un autre degré de cette foi pour Élisée lorsqu'il s'est retrouvé face à ce corps mort pour que, par la grâce de Dieu, l'enfant soit rendu vivant à sa mère. Il lui a fallu rester seul dans la présence de Dieu afin de discerner sa volonté, puis il est entré en action dans le combat de la foi jusqu'à ce que l'enfant ouvre les yeux. C'est ainsi que la Tsunamite a expérimenté une deuxième bénédiction de prophète, la résurrection de son fils. Frères et sœurs, dans ce récit, nous pouvons retirer deux leçons. Premièrement, que c'est la confiance, la foi en Dieu qui nous aide à surmonter toutes les situations, bonnes ou mauvaises, et cela dans la paix du Seigneur. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve, dit l'apôtre Paul, et cela par Christ qui me fortifie. C'est pourquoi, entrant par la foi dans la pleine satisfaction en Christ, en pouvant dire, nous aussi, tout va bien. Deuxièmement, la Bible nous enseigne que nous sommes tous appelés à bénir et à partager les bénédictions divines en fonction de la mesure de foi et des dons que nous avons reçus, en commençant à bénir ceux que nous côtoyons et en leur apportant la bonne odeur du fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la patience, la fidélité, la bienveillance, la tempérance, ainsi que tout ce que le Seigneur nous communiquera. C'est comme cela que nous rechercherons le bien d'autrui, qui est ce que Dieu désire. Comme le dit l'apôtre Pierre, ne rendons pas mal pour mal ou injure pour injure, bénissons au contraire, car c'est à cela que nous avons été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Oui, frères et sœurs, bénissons et soyons contents de le faire. Amen.